Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold on, everybody. Here it comes. Alors, Spotzle, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 181, ici Richard Delhomme. Après 180 épisodes, je pensais avoir fait le tour des gros costauds francophones du bikepacking. Sauf que, la semaine dernière, je reçois un message de Thomas Bourry me disant « Bonjour Richard, tu devrais faire un épisode avec Christophe Dickmann. » Désolé pour la prononciation. Je ferai un effort tout à l'heure, mais tu sais, il m'a fallu 3 ans pour réussir à dire correctement Vandergeinst. Donc pour toi, je me donne 3 ans à nouveau. Je poursuis. Dans la foulée...
Ce ne sera pas le dernier, donc ça me va.
Ça, je m'en doute. Dans la foulée, une longue conversation avec Steven Le Yarrick me lance sur la même piste. Et vous avez certainement entendu parler de l'humour belge. Eh bien, Christophe, en bon liégeois qui s'amuse à faire, par exemple, Liège-Bastogne-Liège 2 fois de suite. C'est drôle, hein ? Bonjour Christophe.
Bonjour Richard.
Bon, j'ai bien vu, hein, Liège-Bastogne-Liège 2 fois pour la rigolade. J'ai bien vu.
C'est pas mon idée à la base, déjà.
Alors, dépose-toi.
Ça me semble un peu fou à la base. C'est un ami de la région, un ami d'ailleurs qui tient un magasin dans la région, François Géquinet, très bon ami, qui m'a proposé ça en 2021. Pour moi, c'est un peu le début de l'ultra. Je faisais déjà des longues, mais c'était des 300, des 400, ou même pas 400, je pense, des 300. Et je sais pas trop d'où c'est sorti de sa tête. Il voulait faire un truc qui avait pas encore été fait dans le coin et... Liège-Bastogne-Liège, c'est une belle course, on connaît bien les routes, et voilà, pourquoi pas le faire 2 fois. En fait, c'était pas ça le deal là-bas, c'était le faire avant les pros, essayer de le finir avant les pros. Et je sais pas comment c'est transformé là-dedans, mais un peu farfelu, et finalement on s'est bien amusé, il y avait de l'engouement, il y a eu du monde sur le bord des routes, c'était une chouette journée. Ouais. Et un bon entraînement. Voilà.
Bah, là, tu l'as mentionné, c'était tes débuts en ultra, mais on va y revenir un petit peu tout à l'heure. Mais d'abord, j'ai une question, en fait. J'ai une question qui m'intéresse vraiment parce que, comme je te l'ai dit, j'ai bien fouillé sur ton compte. Et en fouillant, je suis tombé sur ton CV. Et dans 2 semaines, j'ai bien fouillé sur le net, j'ai regardé un petit peu sur LinkedIn, je suis tombé sur ton CV. J'ai également contacté tes ex-copines. Donc, ça m'a pris 3 jours hein, pour contacter les 72 personnes concernées. Bien sûr. Et je me pose une question, si je te propose de venir rouler avec moi dans le Massif Central, en France donc, pour rouler sur des volcans endormis, est-ce que ça t'intéresse ?
Eh bien, l'Auvergne, je l'ai fait à pied du coup, et du coup avec mon ex. Il y a un paquet de temps.
Finalement.
Ouais, il y a eu des recherches. Du coup, à ce moment-là, je faisais déjà du vélo. Mais c'était beaucoup moins que maintenant et je suis pas vraiment retourné en Auvergne, si je suis passé ou autre, mais jamais à vélo. Et c'est vrai que c'est dans la tête, parce que c'était vraiment canon comme endroit. Et justement, il y a un truc qui se retrouve pas mal en Auvergne, c'est que c'est le trou. Il y a pas grand monde, c'est bien remote et c'est vrai que c'est un truc qui m'intéresse quand même pas mal. Vu que je suis en Belgique, c'est quand même assez facile à mettre en œuvre. C'est pas très loin.
J'ai bien vu, tu as quand même un petit ton travail est quand même lié à la volcanologie, la glaciologie, si j'ai bien compris, plutôt la glaciologie, si j'ai bien compris. C'est ça, Ouais.
Ça, c'est mon background d'études. Donc, j'ai fait la géographie physique et la glaciologie. Et mon mémoire était axé sur les volcans, tout ce qui était détection. Donc, usage de données satellitaires pour la détection de panaches volcaniques. Donc, oui, il y a eu une partie de volcano, mais c'est pas de la volcanologie pure, dans le sens, je ne suis pas géologue. Moi, c'est vraiment tout ce qui est imagerie satellitaire ou autre à ce moment-là. Aujourd'hui, mon boulot n'est pas là-dedans. Si je fais du SIG, donc c'est tout ce qui est base données géospatiales. Mais tout ce qui était glaciologie et volcanologie ou autre, tout ça, c'était au niveau des études plus aujourd'hui. Là, je suis dans le milieu offshore, du coup, en SIG. Donc, c'est différent. C'est la mer, c'est du sable marin, donc
Ça veut dire quoi,
bathymétrie,
SIG?
mergeométrie, tout ça dans le fond marin.
Ça veut dire
Système
quoi,
d'information
SIG?
géographique.
Ah bah voilà, facile.
Ça veut dire base données, des données localisées à un certain endroit, pour faire très très simple. Google Maps, Komoot, toutes ces plateformes sont des sortes de SIG à une
Ouais.
destination ici public, grand public, on va dire. Et donc voilà, ce genre d'outils. Voilà.
Ok. Alors, comme tu en parlais à l'instant, donc de ton passage à l'ultra, et en regardant un petit peu ton parcours, VTT, puis marathon, et enfin plutôt ultra-marathon, et enfin le tournant décisif vers l'ultra, avec pas mal de succès, notamment sur la Transpyrénée, des trucs comme ça, je retrouve un petit peu le même parcours que Josh Hibbett, qui lui aussi vient des 24 heures VTT. Et à quel moment tu t'es dit, et on reparlera de Josh tout à l'heure lorsque l'on va parler du Jibi Duro, à quel moment tu t'es dit que 100 km avaient été ou 24 heures, eh ben ce n'était pas ou plus suffisant? Et que tu voulais
Ben,
davantage.
le 24 heures vélo,
Qu'est-ce
je
qui
l'ai
s'est passé?
jamais fait vraiment. Ce qui s'est passé, bon, il y a eu un Covid comme beaucoup de monde. Du coup, je faisais du marathon VTT jusqu'en 2019. Et 2019, oui, ben, je voyais bien que un long marathon en VTT, c'est au-delà de 100. En dessous, ça reste. On voit vraiment un gap en fait. En dessous de 100, on voit des gens qui sont encore là, et dès qu'on passe au-dessus de 100, ben, il y a des gens qui sont plus là. Donc là, il y a déjà un gap de distance. Et je voyais bien que je finissais des épreuves comme en Belgique, par exemple, il y a le Grand Raid Godefroy, qui est un marathon VTT de 160 km, qui n'existe plus ce format-là, mais voilà. Et je voyais bien que je finissais fatigué, c'est logique, mais pas cramé, et que je pouvais globalement encore rouler. Donc ça, c'est la base, 2019. Je faisais les courses plus ou moins depuis 2017, donc 3 saisons de marathon, ou voilà, c'était pour être amateur et pour le plaisir. Et 2020, a priori, je partais sur la même idée, sauf que 2020, Covid, donc pas de saison. Après, je commençais un peu à tourner en rond quand même, parce que faire chaque année même marathon, et je roulais principalement, pour pas dire qu'en Belgique, donc ça veut dire que le niveau découverte, c'était pas vraiment nouveau, même si j'adore les Ardennes, c'est vraiment le terrain de jeu, à un moment, on tourne en rond. Et 2019, Covid, donc en Belgique, ça a été quand même plus cool qu'en France au niveau du Covid. On a pu rouler, on pouvait pas prendre la voiture ou autre, mais tu vois que tu prenais ton vélo, tu pouvais te taper un peu où tu voulais. Et justement, si tu prends ton vélo et que tu fais de la longue, tu peux te taper les Ardennes, où du coup, vu qu'il n'y a plus de touristes, il n'y a plus rien, t'es seul au monde. Donc quasi tous les week-ends en Covid, c'était avec justement un de mes amis, François Jukinet, celui avec qui j'ai fait le double Gastonnage. On partait voilà, tous les week-ends, tous les dimanches, 200, 300 en route je dis 2019, c'est 2028, dans les Ardennes en solo en route. Et ça a commencé comme ça. Et évidemment, du coup, je regardais un peu ce qui se faisait, les images de la Silk Road ou autre, qui m'inspiraient quand même pas mal, même si je me voyais pas encore vraiment là-dedans. Fin 2020, je regarde plus sérieusement et je commence à m'inscrire à des courses. Donc la première où j'ai rencontré Thomas justement, la Bike Ayman, la Silk et ainsi de suite. Donc ça a vraiment commencé comme ça. Ou de nouveau, voilà, on fait des longues en route et je me rends compte que les 300, ça va, je m'amuse bien, je finis pas défoncé, donc on pourrait continuer en fait. Et tant que la route est belle, je souhaite continuer. Mais il y a une composante quand même qui est toujours essentielle, c'est... Ouais.
Non,
Ok,
non,
je
vas-y, je te
reprends.
laisse
Il y a une
terminer.
composante qui est toujours
Non, non,
essentielle.
vas-y, Christophe.
Ça va. On a un petit décalage de son, donc ça.
Ouais,
Mais
je
du coup, il
sais.
y a vraiment une composante qui est assez essentielle. Je suis un. Je sais pas si on peut dire geek au niveau de tracé et autres, mais le fait d'aller à chaque fois dans des villes où j'ai pas encore été ou autre me motive pas mal. Donc c'est vrai que du coup, quand je trace, le parcours est hyper important et ça me motive pas mal à aller faire de la longue pour aller chercher ce que j'ai pas encore été chercher. Donc voilà.
Tu as commencé par le Biking Man, puis la Silk Road. On peut dire que c'est quand même un sacré écart à la fois de pratique déjà, parce qu'un Biking Man, bon, bah, généralement, c'est plutôt de la route ou majoritairement de la route. Et la Silk Road, c'est l'extrême opposé. Vraiment, comment t'as passé le cap? Te dire, bon, bah, ok, c'est bon, j'ai fait un Biking Man. Maintenant, je me lance direct, Silk Road. Voilà, tranquille.
Ouais, et en fait j'ai peut-être un peu, j'ai quand même oublié une étape en fait dans ce que j'expliquais juste avant. C'est qu'en 2019 j'ai fait mon premier bypacking en solo. J'ai fait Montañas Vacías en Espagne au mois d'octobre.
Oh!
Ça s'est assez bien passé. Et... Ouais. Ok,
Non, non, vas-y, je te laisse continuer parce que Montañas Vacías, alors
je continue.
ça m'intéresse vraiment. Vas-y.
C'est vraiment une belle trace, hein. Mais donc je l'ai fait en solo en octobre, donc c'était ma vraiment ma première expérience de backpacking comme ça. Ouais, j'étais descendu quelques mois avant en Suisse chez un pote à Zurich. C'était la première vraie expérience de backpacking, mais ça n'a rien à voir. Strasbourg, le Rhin, niveau isolement, il y a quand même plus compliqué. T'as du ravitaillement partout. Et donc voilà, la vraie première expérience backpacking, comme je l'entends, type Silk Road ou autre. C'était Montañas Vacías, où j'étais solo, basé sur des refuges, et ainsi de suite. Ça, c'est la vraie première expérience. Après Montañas Vacías en octobre, ça reste l'Espagne, ça reste des conditions météorologiques quand même favorables. Ok, il peut faire moins de 10 degrés, mais c'est quand même pas la folie. C'était quand même de la haute montagne. On arrive à un peu au-dessus de 2000 de temps en temps. Et voilà, c'était super cool. Une expérience franchement trop chouette, tout seul. Et du coup, bah, dans la foulée, j'ai reprogrammé quelque chose en mars de l'année d'après, donc mars 2020. Donc vraiment juste avant le Covid. Je suis parti, c'est une autre trace de bypacking.com, elle s'appelle The Wolf's Lair, donc c'est les Abruzzes. Je les prends et je les combine un petit peu en partant d'une grande ville. Montañas Vacías, je suis parti de Valence et j'ai relié la trace. Et pour le Wolf's Lair dans les Abruzzes, je suis parti de Rome, j'ai rejoint la trace, j'ai fait la trace et je suis revenu à Rome. Et là, bah, du coup, en fait, seul en mars, en Italie, dans les Abruzzes, ça avait un petit air un peu de Silk Road dans le sens où il y avait la neige, il y a des petits stress un peu qui sont pas rationnels, hein, mais il y a des loups dans la région. Dans ta tente, t'entends les loups gueuler, tu vois les traces de pas tous les jours, c'est un petit côté un peu mise dans le bain, assez chouette. Et du coup, voilà, super belle trace où on passe près de l'Aquila et tout ça, donc la région qui avait subi le gros tremblement de terre. Ça, je pense, c'était le gros moteur à continuer ça. Donc, comme je disais, après 2020, ben, beaucoup de vélos en route, surtout pendant le Covid et ainsi de suite. Et fin de l'année, ben, je parle avec ma copine à Silk Road en lui disant ça me chauffe, mais voilà, en soi, ça me semble encore un peu fou. Et ben, c'est elle qui me pousse vraiment à m'inscrire à ça. Donc, en me disant que, bah, vas-y, il n'y a pas de raison. Et du coup, avec Marjo, donc ma copine, on monte un peu un petit voyage à deux, un petit voyage, du coup, un gros voyage. On est parti un mois à deux au Kirghizistan et le vélo était une composante, la course était une composante du voyage, mais c'était pas que la course. Le but c'était d'aller au Kirghiz un mois ensemble, profiter de ce pays qui est quand même assez fou et du coup de faire les courses et qui était pas du tout un objectif sportif à ce niveau-là en termes de résultats. Mais le but c'était juste d'y aller et d'essayer de finir cette course. Vu que justement je savais que j'avais déjà fait quelque chose d'un peu similaire, mais format hors course finalement et puis voilà, Kirghiz c'est quand même un autre environnement. Après Je dis c'est un autre environnement, mais quand tu es seul, ta gueule, justement, par exemple en Italie, dans les Abruzzes, vu qu'il n'y a pas tout cet environnement course, il n'y a pas cette adrénaline et tout ça, t'en chies parfois un peu plus tout seul, en fait, que en course où tu es un peu porté par la course, en fait. Où c'est parfois moins compliqué, je trouve. Donc, voilà.
Ouais, avec la pression, le, enfin, entre guillemets, la pression, mais les autres concurrents, le chrono, savoir qu'il y a les voitures orga quelque part, au bout du compte, t'es pas si seul que ça.
Pas du
Alors
tout,
que
en
là,
fait.
avec les loups,
Synchro, t'es seul au monde. Et tu te demandes vraiment pourquoi t'es là, parfois. Parce que c'est ton choix d'être là, et ouais, t'en chies, mais c'est toi qui t'es mis là. Alors que la course, tu sais pourquoi t'es là. Tu te poses pas cette question. Et tous les jours, bah, tu vois un participant ou n'importe, t'es beaucoup seul, mais moins qu'en bikepacking solo, évidemment.
Est-ce que, alors j'avance un petit peu dans mes questions, parce qu'on là on est sur la Silk Road et il y a une question qui me démange. Est-ce que aller faire la Silk Road avec ton gravel rigide, ton Orbea en pneu de 40, avec les Touaregs en 40, avec le recul, est-ce que c'était vraiment une super idée?
Une super idée, un super entraînement. Non,
Ah oui,
bah, c'est même pas la question de j'ai fait avec ce que j'ai, parce qu'un VTT, j'en avais un en fait. Hein. C'est juste que j'avais fait à ce moment-là que du bikepacking en gravel. Et puis voilà, tu regardes un peu les setups des gens les années avant toi, tu vois qu'il y a des gravels, tu vois qu'il y a des VTT. Et je savais pas trop en fait, je savais que c'était un peu limite mon gravel. Mais je me suis dit, ça va passer. En l'occurrence, c'était limite, clairement. Mais c'est passé. Mais à faire maintenant, y a plus de questions de gravel, il n'y a plus de questions de. Ouais, peut-être un gros monster gravel, mais encore, en fait. Avait été à sa place là-bas, clairement. Et j'adore le gravel, j'adore rouler en gravel à des endroits où il faut pas rouler en gravel. Mais sur une course de 1800 km, c'est pas la même. Si tu peux t'économiser certaines choses, c'est pas mal, ouais. Puis même, t'augmentes le potentiel de problèmes mécaniques avec des petits pneus de 40 et autres. Ma fin de course, je me le rappelle encore, c'est finir sous la jante avec pas mal de stress. Donc ouais, repartir, c'est hors de question le gravel. À moins que j'ai vraiment envie d'être un peu sado et que finalement j'aime bien ça et que je me l'avoue pas, on verra. Mais non, VTT, c'est bien.
Bon, je vais reprendre le fil de mes questions parce que j'en ai d'autres sur le matériel. Un petit détail idiot sur ton compte Instagram et sur la photo juste avant la Tout Volcano, on voit une sangle autour de ton torse. C'était quoi?
Une
Tu te
sangle
souviens ou
autour de
pas?
mon torse.
Ouais, une sangle un petit peu qui fait un triangle, tu vois, avec deux fois sur les épaules et une en travers qui vient au niveau de la taille. C'était quoi? Ou si tu veux aller voir,
Ah
je te
oui, la
laisse
musette.
aller regarder un instant.
Non,
C'était une
non.
musette?
Je pense que je vois. C'est une musette,
Ouais. Un genre de, ouais, comme
c'est.
un mini sac
Bah,
à dos, mais vraiment, vraiment light, light.
c'est la musette qu'on peut empaqueter là, de chez Vidéo.
De chez qui? De chez Apidura?
Il devient, ouais, qui
Ouais,
devient comme ça
d'accord.
quand on l'enfile.
Ok, j'irai voir. Je pense l'avoir vu. Alors, du coup, la question sur
C'est pas mal
le
en
pneu de
vrai.
40, ouais, bah, j'irai voir. Bon, alors. Si on est là, c'est parce que Thomas Boury m'a vivement encouragé à faire un épisode avec toi. Et il m'a dit, le jour où tu feras un épisode avec Christophe, tu lui parleras du sommeil et tu lui demanderas comment il fait pour être le seul coureur d'ultra à dormir autant et à pourtant finir devant, sur le devant des courses. Donc, Christophe, sur les courses, tu dors comment à peu près? Donc là, Tout Volcano, peut-être pas Silk Road parce que c'est l'extrême quand même, mais sur des courses, sur un format entre 700 et 1000 km, tu dors comment?
Ben justement, on va retirer les grosses courses type Tilk et autres déjà parce que j'y allais pas dans une optique vraiment de performance, mais de finir. Les courses, la bikingienne, ben là c'est un peu plus compliqué à nouveau parce que c'était ma première fois dans un format course. La Tout Volcano, j'y ai quand même été en voulant faire quelque chose. Et la stratégie sommeil, ben y en a pas. C'est juste qu'une fois que je dors, je dors. J'ai peut-être besoin de plus dormir que les autres. Et c'est aussi les concours de circonstances. Tout Volcano, en fait, C'est un peu bizarre, en fait. Donc, il y a eu, c'est l'année avec la météo bien pourrie, où le
Ouais,
mec abandonne et Omar dans la
Omar
foulée.
aussi. Ouais.
Et ouais, bah, c'est ça, justement. Et en fait, bah, voilà, moi, je m'aligne sur cette course en sachant qu'il y a du gratin. Et bah, toujours tendance à mettre le gratin sous le piédestal et se dire que bah, voilà, ces gars-là sont quand même des gros moteurs. Et puis je me retrouve en fait au moment des intempéries, deuxième juste devant Omar. Et il arrive juste après moi dans un bar où je me suis arrêté. Et j'entends qu'il y a Ulrich juste devant et que Omar dit: Ah tiens, il fait trop mauvais, on va essayer de trouver un hôtel. Ulrich s'est déjà arrêté dans un hôtel. Puis il y a Joe Rasco qui arrive, c'est pareil. Et ben, en fait, sur le moment, je me sentais assez bien parce que finalement, c'était assez tôt dans la course. Je ne sais plus en termes de kilométrage, hein, mais peut-être 200, 300, peut-être un peu plus, j'en sais rien. Et quand j'entends que ces gros moteurs ben, vont s'arrêter pour aller à l'hôtel, ben, je me dis, ben, sois pas con, on fait pareil, ils savent ce qu'ils font. Et du coup, ben, je trouve un hôtel avec Joe Rasco et Omar. On y va, je prends une chambre avec Joe. Et voilà, en fait, il part un peu plus tôt que moi. Moi, je dors, je sais pas, peut-être 2 heures, un truc du genre. Sauf que toute la deuxième vague, en fait, bah, elle s'arrête pas du tout, elle continue. Chose que j'aurais dû faire, parce que quand je m'arrête, finalement, en fait, c'est pas un arrêt volontaire, c'est un arrêt, bah, j'étais bien pour continuer.
Ouais.
Et quand je me réveille, bah, je passe de deuxième à 17e, donc évidemment, la course change un peu. Je suis plus dans la tête, mais je suis en chasseur. Et finalement, c'est un rôle qui me va assez bien, en fait. J'aime bien me dire, il y a des gens devant, je les reprends et je les dépasse. Et ça me motive assez fort d'avoir la carotte de, il y a quelqu'un devant. Alors que quand je suis devant, je sais pas trop le rythme à donner, faux rythme ou autre. Donc ça m'allait bien. Et ben voilà, deuxième, 17e, ben, il y a du chemin à faire et il faut aller chercher les gens. Et au final, ça se passe plutôt bien. La deuxième nuit, je pense que je suis avec Gauthier, justement, qui t'a déjà fait un épisode, Gauthier Vancart.
Ouais.
Et ben là, on est quatrième à mon avis, tous les deux, ou cinquième, j'en sais rien dans ces eaux-là. Là, pareil, ben, j'ai plus dormi que les autres, mais j'ai encore besoin de dormir un petit peu. Je dors un peu plus, on se revoit plus dans la course, lui finit devant moi. Et là, c'est avec un autre camarade que je fais la course, ben, c'est Steven. Où là, ben, c'est pareil, je suis beaucoup moins constant. Et on joue en chasse-patate tout le temps. Steven me reprend tout le temps, me dépasse, et puis moi je reviens, je redépasse, et je suis à la souris tout le temps. C'est assez drôle comme course, un peu particulier. Mais bon, là on ne parle plus de sommeil, mais du coup, si, il y a eu beaucoup d'arrêts liés à du sommeil ou même question d'organisation. C'est le cas pour d'autres courses, hein. Le Maroc, ici en octobre, j'étais assez bien devant, et il y avait un hôtel, et voilà. L'hôtel a fait une bonne 8-6 heures et je suis retrouvé dans le même rôle. Je suis passé de l'avant de la course à hors top 10, à devoir chasser et récupérer les gens. Et de nouveau, je pense que ça me convient bien. Ça me convient bien et en même temps, je sais que c'est un point que je dois clairement améliorer parce que je pense que je peux aller plus loin dans le sommeil. Mais voilà, je n'ai pas de stratégie, c'est juste que ça vient comme ça. Et c'est un point peut-être amélioré, on verra. Et j'ai essayé sur d'autres courses, la GB cette année, de le faire en one shot et d'aller donc. C'est GB, c'était les étapes plus courtes, hein, c'était 600. Le 600, je l'ai fait quasi sans dormir. Et en fait, souvent, je vais un peu plus vite que les autres, mais là, je n'allais pas plus vite que You. Donc, You, Oliver, qui gagne le GB. Alors que quand je suis plus reposé, ben là généralement je vais quand même un peu plus vite. Donc finalement, je suis pas encore convaincu de la stratégie qui me va le mieux. Et si je dois dormir plus, si non plus, pas plus, mais moins ou continuer comme je fais un peu à l'arrache.
Continue à faire au feeling finalement, parce que oui, comme tu viens de le dire, quand tu t'arrêtes, bah tu te reposes, tu vas vite, et de jouer la stratégie du non-stop, tu rattrapes des gars qui sont un petit peu cramés. Donc ouais, tu joues au chat à la souris, mais au final, tu finis quand même devant apparemment. Donc c'est pas si mal que ça.
Ouais, bah, y a vraiment Par exemple, justement, l'Atlas, en fait. Donc, moi, j'ai dormi 6 heures au kilomètre. Bon, ça a été une course un peu bizarre, l'Atlas, avec l'histoire de la rivière, là. Donc, on a eu un arrêt forcé au kilomètre 280, ce qui était quand même pas prévu. Et donc, du coup, un break qui n'était pas souhaité à ce moment-là. Moi, je pensais aller au kilomètre 500 et dormir au kilomètre 500. Mais donc, je suis quand même arrivé au kilomètre 500 vers 23 heures. Il y avait un hôtel. J'ai vu qu'il y avait d'autres concurrents en plus devant moi. Et donc, ouais, une nuit de 6 heures, mais au final, le matin, il y en a pas mal qui sont passés devant moi. Mais justement, la paire Jeffrey et je sais plus son acolyte, il y avait Thomas, il y avait Josh et tout ça. Et c'est vrai que finalement, quand je les ai repris, eux, je pense qu'ils ont roulé toute la nuit. Quand je les ai repris, il y avait une vraie différence de fraîcheur claire, en fait. C'était pas du tout, on pouvait rouler ensemble, c'était. Vous voyez qu'ils avaient lutté la nuit et que ça avançait plus du tout à une vitesse, quoi. Donc c'est clair que quand on voit que maintenant il y a de plus en plus de gens qui dorment en course et que ça paye, je pense que ça a du sens aussi. Après, ça dépend du format de course. 20 000 km, il y a moyen de quasi pas dormir, mais 1 000 km route, hein, je parle. Donc moins de 40, moins de 50 heures. Et de nouveau. Ça dépend des enjeux, ça dépend. Transpyrénées, j'ai dormi, mais Transpyrénées, c'était déluge à un moment. Le premier avait une belle avance, le deuxième, il était 10 heures derrière. L'enjeu n'est pas le même, donc tu peux dormir et puis il n'y a aucune raison d'aller me mettre dans des états de fou alors que j'avais une marge énorme derrière moi. Et devant moi aussi, elle était trop grosse pour aller chercher. Mais
Bah,
donc, non, pas de
là, ce
vraie
que tu dis,
stratégie, juste.
freestyle.
Ouais, un peu.
Un
Beaucoup.
peu, ouais. Souvent, on entend bah, sur les groupes Facebook, quand ça parle de bikepacking, de bivouac, de, bah, de sommeil même en général, il y a un petit état d'esprit jusqu'au boutiste qui défend le bivouac, le dodo dehors ou même carrément le non-stop. C'est quoi ton opinion, toi, sur la balance entre choisir l'hôtel, choisir un bivouac rapide au bord de la route ou au contraire de faire du non-stop? Selon toi, quelle est la balance pour choisir telle ou telle stratégie à un moment de la course ou selon l'épreuve?
Ben selon l'épreuve, déjà, dur ou pas dur, c'est assez simple. Si tu es au Kirghiz, si tu es au Maroc, le dur, tu n'as pas le choix. Tu le prendras où il sera. L'exemple de l'hôtel au kilomètre 500 au Maroc, c'est parce que c'est un des seuls que j'ai vu. Après, je suis pas hyper attentif aux hôtels. Je veux dire, je passe des trucs et je rate des trucs, donc je suis pas le plus focus là-dessus, mais. Kirghiz, des hôtels, il n'y en a pas des masses. Donc, tu t'arrêtes, normalement, tu vas t'arrêter là parce que c'est comme ça et ça ne sera pas du dur. Il y avait un cas particulier, Jiwi Duro, eux, c'était. Tu ne pouvais pas dormir dans des infrastructures humaines, donc là, la question ne se pose pas. Et alors, par rapport à l'hôtel, quand tu es en mode vraiment course, il y a quand même aussi une contrainte économique. Faut aller taper 50, 60 euros, voire plus. Bon, ça dépend du pays, évidemment. Au Maroc, c'est 10 balles la nuit, 10, 15, donc c'est pas du tout la même chose. Mais taper ça pour dormir 2 heures à l'hôtel, c'est clair que tu réfléchis un petit peu et généralement, en route, je le ferai pas, par exemple. Et puis, je suis quand même dans l'optique, même si je suis un gros dormeur, je veux dire, je suis quand même dans l'optique, a priori, de pas le faire. Transpyrénées, j'ai pas été à l'hôtel. Il y avait quoi d'autre en route? Tout le canard, ben, s'il y a eu l'épisode hôtel pour quelques heures. Donc, ben, de nouveau, voilà, pas de vraie stratégie, mais a priori, le dur, c'est quand même pas la priorité. Et au niveau bivouac et autres, Silk Road, c'est hors catégorie dans le sens je partirai toujours avec de quoi bivouaquer. Je l'avais fait en tente il y a 2 ans. À refaire maintenant, ce serait sans doute un vivi. Mais c'est un peu une exception, et finalement, Maroc ou une course du genre, bah, je pense que juste un sac de couchage ou un bivy d'urgence, c'est bien assez. Bon, je dis ça, j'avais quand même prévu a priori le matelas et tout, je les ai retirés au dernier moment. Mais voilà, quoi que j'avais quand même mon matelas. J'avais mon matelas, je l'ai utilisé pendant la pause forcée dans la station essence. Mais voilà, donc il n'y a pas. A priori, Le bivouac, c'est quand même la base. Sauf si il y a des choses qui s'alignent et qui font qu'à un moment, à tel moment, fin de journée, parce que c'est bien l'hôtel, mais l'hôtel, il faut arriver quand il est ouvert déjà. T'as pas envie de t'arrêter à 20h si t'es encore un peu en forme. Donc voilà, si j'arrive à 23h et que, comme par hasard, il y a un hôtel à ce moment-là qui est ouvert et que ça colle bien, pourquoi pas? Ou alors à l'inverse, une course comme le Kirghiz, il y avait Narin, qui est une grande ville. Quand je dis grand, c'est pas très grand, mais au Kirghiz, je savais qu'il y avait un hôtel là. Là, c'est clair que j'ai poussé la journée en me disant, je vais y arriver ce soir, c'est mon objectif. Parce que justement, au Kirghiz, l'hôtel, n'a pas des masses et t'es content au milieu de ta course de t'en mettre un, pouvoir prendre une douche, pouvoir dormir bien et repartir au combat pour refaire du bivouac après les soirs d'après. Donc voilà pour le dur, pas dur, le bivouac, hein, si tu veux.
Donc ouais, tu vas vraiment choisir en fonction de la situation géographique, en fonction de la situation de course, en fonction de l'heure, et là tu vas choisir la technique la plus adaptée. Enfin oui, c'est vraiment un outil, l'outil le plus adapté, dehors, hôtel, non-stop, ou un mélange un petit peu de bivouac hôtel ou non-stop hôtel ou non-stop bivouac. Mais c'est vraiment selon le moment et selon les circonstances de course. Il n'y a pas
Ouais, complètement.
d'obligation à faire tel ou tel truc pour coller. Est-ce
Non, non, du
que
tout.
du coup la question qu'on pourrait se poser, c'est si tu fais du bikepacking et que tu t'arrêtes à l'hôtel, est-ce que tu fais vraiment du bikepacking ou du cyclotourisme? Ça dépend peut-être des gens, non?
Ça dépend peut-être des gens, et de nouveau, ben, là, on va enlever le cadre course. Quand je fais du bypacking, ben, type Montes Vaciases, les Abruzzes, ou j'en ai refait un en Andalousie il y a 2 ans, l'année passée, en fait, il y a un an. C'est toujours un mix des deux parce que ben, on en revient à la même chose. Prendre une douche au milieu d'une semaine de vélo, c'est quand même agréable. Et plus agréable que se taper un lac froid ou autre. Recharger les batteries s'il n'y a pas de dynamo. Donc non, c'est toujours sur des longs formats. C'est toujours utile de taper un jour d'hôtel de temps en temps où vraiment tu recharges vraiment. Maintenant, sur une course format. Je veux dire sprint, c'est pas vraiment sprint, mais le Maroc, moi je mets ça un peu en format sprint. Là, l'hôtel, c'est a priori, c'est moins une option. Sauf si ça se met bien.
Ouais, sauf en cas de peut-être de blessure ou de un truc vraiment particulier, mais si tout va bien, tu peux rester dehors, ouais. Bon, on va continuer un petit peu sur le dodo. Steven m'a dit que bah, tu l'as dit déjà, mais que vous roulez pas mal ensemble, que ça rigole bien, et même que sur l'Atlas, il s'est endormi en travers d'un chemin pour t'obliger à l'enjamber et ainsi le réveiller. Comme ça, il
Ouais.
saura que tu es passé et ça l'obligera à se lever. Bon, déjà, est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il m'a embobiné encore là-dessus?
Non, non, c'est vrai, ça va être un bon filou.
C'est vrai.
Donc c'est après le dernier CP. Bah là, il était un peu parti pour faire la guerre à ce moment-là. Il y a Rodney qui est parti. Steven s'est grouillé pour partir pas loin de Rodney pour essayer de le reprendre. Moi, j'ai un peu plus pris mon temps en me disant je préfère me remettre vraiment bien là maintenant, repartir. Parce qu'il reste pas grand-chose, hein, il reste 150 ou 150 kilos après le CP3. Mais je me disais, a priori, si je suis bien, il y a moyen que je sois plus rapide. Et donc j'ai pris mon temps de manger, j'ai pris ma douche, j'ai un peu tout fait pour repartir bien. Et du coup, ouais, c'était un long col sur route. Steven, je pense qu'il a vu Rodney avec ses lumières. Moi, j'ai vu un moment de son monde de lumière, mais je suis pas sûr d'avoir vraiment vu quelqu'un. Et j'ai continué, je me sentais quand même relativement bien. Et à un moment, c'est une portion, je sais pas si c'était déjà un hike bike ou ouais, c'est possible, c'est un hike bike. Et ou juste avant, et je passe et puis genre je vois qu'il y a quelque chose juste à côté du trail et en fait ouais, c'était Steven qui était juste à côté. Et quand il se réveille, je vois qu'il est vraiment la tête dans le cul, mais genre vraiment vraiment. Et qui ouais. Mais là, il a vraiment poussé, il avait poussé vraiment loin pour la classe. Il a quasi pas dormi jusque-là. Et quand je le vois, ben, on voit qu'il est à bout au niveau fatigue, là. Et c'était, Désolé, Steven. C'était, ah, tu veux qu'on reste ensemble? Et donc, bah, je lui dis, bah, on avance. Et là, c'est du hike et bike. Et je sens bien que déjà, rien que dans le hike et bike, bah, je fais un peu de distance. Et puis, à un moment, je remonte sur le vélo. Et là, je ne l'ai plus vu du tout. Et j'ai vu rapidement sa lampe s'éloigner. Dans... C'était vraiment délacé. Hein, donc, moi, je voyais en dessous. Et là, bah, je pense que la course était finie à ce niveau-là. Parce que il était vraiment dans une fatigue assez forte. Alors que j'étais. Je vais pas dire frais, c'est pas le mot, mais j'étais encore bien. J'avais ma musique pour bien booster et c'est parti. J'ai fait une petite sieste en haut de cette ascension qui était quand même assez costaud. Et puis je suis parti bah, essayer de voir s'il y avait moins de choux qui revenaient, mais c'était fini. Donc voilà.
Bon bah, si on reçoit chacun un message de Steven nous disant bande d'enculés, ben on saura pourquoi, au moins, c'est déjà ça. Mais j'en doute, j'en doute.
Voilà,
Bon, demain, tu fais quoi?
bah demain c'est la Malteni. C'est plus ou moins des premières fois que j'ai roulé du côté, bah, pas en Flandre, hein, mais là je parle de la Flandre en Belgique. Donc
Ouais.
c'est a priori pas le genre de décor qui m'intéresse de base, parce que justement le dénivelé c'est quelque chose qui me botte beaucoup en vélo. Mais il faut pas mourir idiot. Donc la semaine passée, j'ai fait le tour des Flandres. Donc j'ai goûté un peu de pavé. Et ben, du coup, demain, ça sera la Malteni et ça sera encore du pavé. Et donc j'aurais fait un semblant de tour des Flandres et Paris-Roubaix sur 2 semaines. Et voilà. Je sais pas si. Je pense que niveau ambiance et niveau intérêt de le faire une fois, ça c'est chouette. Et il y a du beau monde, ça a l'air chouette. Bon, évidemment, la météo est un peu foireuse. Il y aura de la boue, il fera froid, il y aura plein de soleil. Mais bon, voilà. C'est le printemps. De toute façon, on a ça depuis un
Ah
paquet de temps pour l'instant en Belgique. Donc,
oui,
c'est comme samedi passé, ainsi de suite.
c'est le printemps en théorie. Bon, l'avantage, c'est que tu m'as dit
Voilà.
que tu vas être à acte 3 ou acte 5, je ne sais plus lequel. C'est le 3 ou 5 que tu fais?
C'est le 3, c'est fin avril.
Le 3. Donc tu pourras en parler avec Alex, l'organisateur, qui l'a fait une ou deux fois. Et je pense même qu'il avait fait le meilleur temps dessus. Donc ça vous fera au moins un petit sujet de conversation. Et puis là-bas, bah, tu vas retrouver Marin, tu vas retrouver Sofiane, tu vas retrouver pas mal de beau monde. Et ça va te servir de première rampe de préparation pour la Highland Trail.
C'est ça, goûter les conditions météo adaptées à l'Écosse. Ouais. Mais oui,
Ouais,
après,
je sais pas.
moi, c'est une vraie réinscription de dernière limite. Hein. Je suis inscrit depuis une semaine ou deux.
Ouais.
J'avais un autre projet en tête. Ben, Anatole, justement, et d'autres gars ont organisé l'Unknown ce week-end. Ça me
Ouais.
chauffait. Ben, elle a commencé maintenant, je pense. Ça me chauffait assez bien. Après, j'ai anniversaire de 30 ans d'un pote, donc voilà, il y a des choix à faire et je voulais pas rater les 30 ans, donc ça colle bien. Malteni, hop, je fais l'anniversaire et j'ai fait un peu tôt, donc c'est très bien comme ça. Et voilà. Et donc, oui, par rapport aux conditions météo, là, a priori, je dois plus m'entraîner à des courses où je sais que la météo sera foireuse que grand soleil type Valgace ou n'importe. Acte 3, Island ou n'importe, ça sera que potentiellement de la boue ou de la pluie.
Tu attends quoi de la
Puis,
Highland
a
Trail?
priori. Alors, la Island Trail, bah, déjà, ça compléterait une petite frustration de l'année passée qui s'appelle la JV Douro. Du coup, la JV, je me suis inscrit. En vraiment voulant voir l'Écosse, parce que les Cornouailles et autres, je dis pas que ça m'intéresse pas, c'était quand même pas ce qui m'intéressait le plus, même si c'était une belle surprise. Le Pays de Galles, j'ai fait mon stage au Pays de Galles, donc je connaissais en partie. Après, nouveau, c'était chouette d'y retourner. Et ben, juste l'Écosse, j'ai envie de voir l'Écosse. Donc, je m'inscris à une course en me disant, ben voilà, je vais traverser l'Angleterre et je vais faire l'Écosse. Sauf que pépin mécanique, ma course s'arrête à Édimbourg. Donc, inscription à une course pour faire l'Écosse et pas d'Écosse. Donc, quand je suis revenu, ben, qu'est-ce qu'il y a moyen de faire en Écosse? l'Highland Trail, et on est là. Et surtout que j'ai rencontré Alan, qui est l'organisateur de l'Highland Trail, pas Jimmy Duro. Et voilà, de fil en aiguille, bah, Jimmy Duro, c'est un peu plus chaud de faire ça. Ce sera mon objectif de cette année. Et voilà. Et j'ai entendu des bons échos par rapport à la course. C'est une course qui est quand même un peu mythique aussi dans le calendrier. Donc voilà, pas mal de choses qui me chauffent à faire ça. Et voilà. Et finalement, j'aime bien, bah évidemment, j'aime bien rouler au soleil comme tout le monde ou autre, mais des décors avec des ambiances un peu mystiques, pluie ou autre, ça ne me dérange pas spécialement non plus. Donc, voir des beaux décors comme ça, bien verts et bien, voilà, bien vallonnés comme il faut, ça me botte.
Et la perspective de retrouver sur place Sofiane, Josh, Angus Young, le terrifiant Angus Young, toi tu y vas avec quelle attente?
Bah, déjà, quand je me suis inscrit, évidemment, je savais pas qui allait y aller. Et c'est vrai que quand Alan a publié la liste de départ, ouais, il y a du gratin, clairement. Après, en soi, on va pas se mentir, je vais plus sur une course en me disant j'y vais pour la finir. Je sais que globalement, la finir hors pépin, ça se passe. Le but, ça sera d'en profiter clairement parce que j'ai envie de voir ces paysages. Et si je peux me tirer la bourre avec des gens que je connais en partie ou des gens avec qui j'ai déjà roulé, c'est tout bonus, c'est clair. Après, ça va stimuler à rouler un peu vite. Et de toute façon, aussi, stimuler, c'est un autre format de course encore a priori que d'autres que j'ai déjà fait, parce que si j'ai bien compris, après je vais peut-être un peu me renseigner plus sur l'Island, mais c'est quand même plus VTT que les autres courses type Silk Road. C'est pas technique, l'Atlas c'est pas vraiment technique. Là, si j'ai bien compris, avoir un vélo avec un full par exemple, c'est adapté à l'Island. Après, faut voir vraiment sur place, hein, j'en sais rien, mais apparemment c'est plus VTT que les autres, donc c'est une chouette perspective à ce niveau-là aussi. Donc moi ça me botte. Voilà.
Justement, en parlant de vélo, quand je regarde ton compte Instagram, j'ai l'impression que tu changes de vélo à chaque course. T'as combien de vélos à la maison?
C'est un peu fou. Ouais. Là, ça va en fait. J'en ai avoir 5. Ouais, en fait, des vélos, j'en ai. Il y en a qui passent, il y en a qui. Je change beaucoup. Où je monte le Cherokee Getty, à la base, il avait été monté par exemple que pour le Maroc.
Ouais.
Il s'avère que ce vélo m'amuse bien et que je le garde et que je continue à rouler avec. Mais oui, en fait, je peux complètement prévoir un setup que pour une course. Je suis un peu bike geek quand même. Et ça m'amuse bien de. Bah, et puis j'ai un ami, Alan, Alcapol, son petit nom, avec qui on monte mes vélos et on change les pièces pour tel montage, tel ci, tel ça, ou n'importe. Et ça m'amuse vraiment bien. Donc oui, j'ai quelques vélos et potentiellement je pars un vélo. Je pourrais acheter un cadre et le revendre juste après, juste pour une course, par exemple.
Comment tu fais évoluer justement comment tu fais évoluer ton kit en fonction d'une course? Tu tiens compte des spécificités de la course? Sur quels critères tu te bases pour faire évoluer ton kit entre la Silk Road, l'Atlas Mountain Race, qui sont globalement humides, totalement sèches ou en tout cas froides, à carrément humides, comme l'Highland? Tu te bases sur quels critères?
Bah déjà le setup de la Silk Road, là justement il n'a pas été tué de la même façon parce que je pensais qu'on verrait que j'avais à ce moment-là. L'Atlas là, là la réflexion a été plus poussée. Bon, je me suis peut-être un peu planté sur planté c'est relatif hein, mais une fourche aurait été pas mal. On me l'a dit. On me l'a dit et je me suis dit bah, ça va aller. Et effectivement, ça a été, mais c'est clair que ça n'avait pas été trop. Et d'ailleurs, de plus en plus de gens le disent, et je suis complètement d'accord, un full au Maroc est complètement justifié. Pas dans le sens au niveau que c'est dur techniquement, juste qu'au niveau en termes de repos par rapport aux filtrations et autres, bah, c'est un vrai luxe. Un vrai luxe qui
Ouais.
serait quand même complètement appréciable. Le Maroc, le problème, ça a été, comme pas mal de monde, c'est mal au cul à la fin. Parce que il y a de la caillasse partout et que ça tabasse. Alors que je suis sur un vélo titane avec des gros pneus. Donc voilà, il y a toujours moyen d'améliorer ses choix. Ça peut faire gagner un peu, c'est clair. Mais par rapport à le choix d'un vélo avant une course, donc c'est la question de base. Vu que je suis un peu bike geek, je me prends quand même pas mal la tête. Vu que j'aime bien essayer des nouvelles choses, ben, j'essaye aussi. Mais ouais, je regarde souvent quand même les vélos des éditions précédentes. Après, de nouveau, ça ne veut pas dire que parce que l'année précédente, il y avait tel vélo que c'est le bon choix. J'essaye de voir le vélo de ceux qui étaient devant, parce que de nouveau, ben voilà, le gars qui va s'aligner maintenant sur le Maroc et qui regarde les vélos du Maroc, ben, des gravels, il y en a un paquet. Sauf que des gravels en tête de course, il n'y en a pas. Silk Road, c'est pareil, il n'y a pas de gravel devant. Donc voilà, faut regarder les bonnes personnes qui font les bons choix. Et à partir de là, ben, aérobar, pas aérobar, ça dépend du dénivelé, ça dépend du type de revêtement, ça dépend de pas mal de choses. Et nouveau, je dis pas que mes choix sont toujours optimaux, mais ils me conviennent dans une certaine mesure. Et après la course, je me dis, ah, si je devais la refaire, je partirais sur ça plutôt, ça sert à rien, ainsi de suite. Et on apprend.
Et pour Bright Midnight cet été en Norvège, tu vas faire quoi? Tu vas partir ultra light avec une frontale?
Bah justement, je sais pas encore trop. A priori, il n'y a pas vraiment de nuit. Donc,
Non.
bah tout ce qui est dynamo et autres, finalement, à part la recharge, ça n'a pas beaucoup de sens. La recharge, c'est 1 000 km gravel, donc j'ai pas encore d'estimation de temps réel, mais a priori, peut-être qu'avec une batterie externe, ça suffit. Et peut-être oui, juste une frontale et pas beaucoup d'équipement comme une course route en fait, quasi.
Je crois que c'est 60% route, hein, quand même. Il n'y a pas tant de gravel que ça. Et les sections gravel passent en pneus de 40 ultra roulants. Et Justinas m'a
Ok.
dit une frontale pour voir, parce qu'il peut y avoir des sections forêt un petit peu sombres, tu vois, ou en cas de problème. Et c'est surtout pour être vu. Et par contre, il est pas rare, lui déjà arrivé de mettre les lunettes de soleil à 1 h du mat, parce que le soleil, donc, à cette période-là, et c'est pour ça que
Ah oui.
l'épreuve s'appelle Bright Midnight, c'est parce qu'à 1 h du mat, on peut avoir le soleil dans les yeux, et que le soleil ne bouge pas de cette
OK.
position, fin de journée, pendant, une longue période. Donc, on va être toujours pas entre chien et loup, mais un petit peu avant, fin de journée, pendant 48 heures, 72 heures. Donc ça va être très rigolo
Ça va être
de se
particulier, hein.
retrouver
Ouais,
ça
ça
va
va
être
être
très
drôle.
rigolo de se retrouver là-bas. Je pense qu'on va bien rigoler. Je pense qu'on va beaucoup moins rigoler quand il va falloir rejoindre Tolga, parce que ça m'a l'air raide
Ouais.
paumé comme endroit. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu. Faut pas se tromper d'aéroport. Après, faut prendre le train. Arriver à Tolga, il y a un bistrot, ou en tout cas une épicerie. Il n'y a rien autour. Il n'y a même pas de route d'accès. Donc je sais même pas où on va, et ça va être vraiment marrant. Donc rendez-vous là-bas. Ça va être pas mal du tout.
Rendez-vous là-bas. Mais je ne suis pas
Exactement.
encore vraiment penché, hein. Là, je fonctionne course par course, donc ouais, il faudrait que je prenne quand même, ne fût-ce que si c'est avion, mes billets d'avion ou autre, j'en sais rien. Mais à part ça, là, dans la tête, c'est l'Écosse, puis ensuite, ça sera la Norvège. Mais du coup, tout ce qui est setup et tout ça pour l'instant, j'avoue que bah, je
Oui, c'est
sais que je
trop
vais devoir
loin,
adapter ce
c'est
que j'ai
trop.
parce que justement, c'est trop loin. Mais je dois adapter parce que
Ouais.
mon gravel, c'est quand même un gros gravel. Et du coup, ouais, mètre 45 et autres, je vois pas trop l'intérêt. Il va falloir alléger tout
Bah
ça
si.
et c'est cool, ça fait partie du jeu.
Si tu as toujours le hors BA, ça sera le moment de le sortir, parce que là, il sera pas mal.
Il sera pas mal, mais il est plus là.
Ah, le bougre, mince. Ça fait trois
Il
ans
a
à
bien
peu près que
vécu.
tu traînes. Ça fait à peu près 3 ans que tu traînes dans ces épreuves. que que t'es généralement devant, que comme tu dis, tu croises le gratin et donc tu en fais partie. Est-ce que, avec l'augmentation du niveau, avec l'arrivée d'athlètes vraiment, vraiment pointus, est-ce que l'ambiance change un tout petit peu et on voit que ça a perdu, est-ce que ça a perdu un tout petit peu de bonne ambiance? Est-ce qu'on voit arriver des athlètes un petit peu sérieux ou limite chiants? Est-ce que l'ambiance a changé un petit peu depuis 2-3 ans?
J'ai du mal à exprimer là-dessus dans le sens où oui j'ai fait
Sans
quelques
donner
courses
de,
mais
sans de, sans de, sans donner de nom, évidemment, c'est pas la peine de les balancer.
il y a des gens qui ont l'air moins drôles que d'autres hein. Je pense qu'il y a un Allemand bien connu, ça peut être le plus souriant. Après c'est un jugement, je le connais pas hein, mais au final le gratin ouais ça change mais il y a des gars comme dans le gratin comme Justinas qui ont des moteurs de fous furieux et qui sont des gars qui sont pas pros et qui ont une vie qui m'a l'air normale à côté et qui sont hyper cool. Donc heureusement il n'y a pas que des gens chiants qui se réveillent tous les jours à 7-8 heures pour aller faire des entraînements et leur vie c'est que le vélo. Il y a un peu de tout. Après c'est clair que ça va évoluer vers de plus en plus de gars qui vivent pour ça, comme dans pas mal de disciplines au final. Mais après, si dans quelques années je dois aller sur des événements pour faire top 10, top 15 et que je m'amuse avec les gens du top 10, top 15, c'est des gens comme moi, ça me va aussi. Donc le classement, c'est pas. Ouais, c'est un objectif, mais c'est pas une finalité. Et finalement, ce qui m'amuse, c'est plus le petit monde. Ben voilà, là, Steven, Thomas, ou encore d'autres, hein, pas faire une liste. C'est des gens que je croise sur plusieurs courses. On se croise, on organise ensemble. Toto, par exemple, l'année passée, j'ai été chez lui pendant l'été. C'est un petit monde, c'est des gens que tu croises de course en course. C'est une petite communauté, c'est super cool. Et en dehors de. Si maintenant il y a un petit monde d'ultra pro et que c'est leur petit monde, tant mieux qu'ils s'amusent entre eux. Et c'est pas ce que je cherche a priori. Donc. Ouais, je pense que ça va changer, ça va devenir un peu différent pour l'élite et puis pour les autres, ça continuera à être des gens qui veulent juste essayer des trucs qu'ils font pas en temps normal ou voilà. Et puis le format course, à un moment, il faut voir aussi si c'est ce qui continuera à voter. J'aime bien le faire aussi en format course, donc on verra quand les choses avanceront et mes envies à ce moment-là. Et par rapport à comment ça évolue, ça m'importe peu.
Si le classement est un objectif mais pas une finalité, pour toi, c'est quoi la finalité alors?
La finalité, c'est pas je pense, je suis persuadé que c'est ça, c'est aller rouler sur des endroits qui me font rêver. Silkroad, c'est le cas, Maroc, c'est le cas. À la Highlands, c'est le cas. On ne verra jamais sur une course comme Race Across the Netherlands. Ou alors, j'avais vraiment rien à faire ce week-end-là et non, en fait, je pense que ça n'arrivera juste pas. C'est pour ça que quand je parlais déjà d'aller rouler en Flandre, j'y vais parce que je pense que je juge un peu vite et que j'ai pas envie de mourir idiot, mais techniquement, faire des courses là-bas, ça m'intéresse pas. Quand tu parlais du Massif Central, c'est clair, ça me chauffe, parce que le Massif Central, c'est cool. Pyrénées, c'était cool. J'avais jamais été dans les Pyrénées avant. Et donc, je pense que la vraie motivation, elle est vraiment là. C'est aller rouler. J'ai déjà une liste de courses ou d'endroits où j'ai envie d'aller rouler. Ce ne sera pas, ah tiens, il y a telle personne, ou il y a tel classement, ou cette course, elle est bien vue, donc je vais y aller. Si l'endroit est chiant, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà. Par exemple, Norvège, c'est un bon exemple, hein. Je pense que ça fait bien rêver d'aller rouler du côté des fjords. Et si possible, si je peux cumuler une course, pour l'instant, c'est ce que je fais les trois quarts du temps, une course à un voyage, c'est idéal. Le Kyrgyz, je suis resté un mois avec Marjo. Les Pyrénées, on est resté 2 semaines. La Norvège, ici, on va rester encore après la course. Voilà, faire une partie en vélo, se pousser un peu, et ensuite profiter de l'endroit différemment aussi. Donc là-bas, c'est ça, bon, c'est vraiment l'endroit.
Ah, moi, la Norvège, j'y vais pour les Norvégiennes. Tranquille.
C'est assumé, c'est
À
bien.
l'heure, oh bah, pas de problème. Tout à l'heure, tu as dit les mecs de l'élite se lèvent à 7h ou 8h pour aller faire du vélo, mais pour ceux qui ont une vie normale, il n'y a pas que le vélo dans la vie. Et toi, justement, tu as un métier, tu as un master en glaciologie, etc. Maintenant, tu travailles dans la localisation. Donc, on peut dire que tu as une vie parfaitement normale, que tes journées, je peux en témoigner, pour t'attraper sur un épisode, ça n'a pas été simple, simple, parce que tu n'as qu'une journée de télétravail par semaine et le reste, tu es au bureau. Justement, pour arriver à ce niveau de performance qui est le tien, comment tu t'organises pour avoir quand même bah, ton boulot, visiblement une copine, et malgré tout pouvoir rouler suffisamment pour performer sur les épreuves dont on a parlé?
La question de rouler suffisamment, on verra si c'est suffisant pour l'instant, parce que pour l'instant, c'est pas beaucoup, beaucoup. C'est relatif, hein, par rapport à monsieur, tout le monde, je roule peut-être beaucoup, mais là, je fais pour l'instant max 10-11 heures par semaine, et ça peut être 4-5. Ça dépend vraiment de mon programme, ça dépend beaucoup de la météo, du coup, pour l'instant, quand même. J'ai pas eu le meilleur début d'année, à point de personne et l'autre. Donc la motivation n'était pas trop là. Après, même de manière générale, hein, je ne fais pas beaucoup, beaucoup de longue distance à la maison, on va dire. Et par contre, dès que ça se lance, il y aura les courses. Il y aura les dimanches où il fait beau, je serai chaud de prendre mon vélo et aller faire des longues ou autre. Mais par exemple, pour l'instant, je roule régulièrement. Je roule régulièrement près de la maison ou je vais faire un 30, un 40, un 50, principalement off-road pour l'instant, très peu de route, mais où je vais taper beaucoup de dénivelé, et du coup, niveau entraînement, c'est régulier, c'est un peu rythmé dans le sens où, vu qu'il y a des côtes, il faut monter, il faut pousser, mais pour l'instant, en fait, ça me suffit. Après, je dirais peut-être quelque chose d'autre demain, hein, mais peut-être que je sentirai que je manque de rythme. Mais ça me suffit, j'ai l'impression, parce que je me trompe peut-être, je suis quand même pas médecin ou physio, n'importe, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une mémoire du corps, dans le sens où voilà, mes dernières longues distances, c'est le Maroc en octobre. Et que depuis octobre, j'ai pas vraiment stoppé le sport par une grosse dizaine de jours pour le boulot. Et que finalement, ok, peut-être que le gros fond. Pour les très longues, il va me manquer au début, mais que je perds pas toute ma condition parce que je suis régulier dans le sport et que mon objectif, bah, par exemple, c'est la Highland. D'ici là, j'aurais fait la Malteni, j'aurais fait l'acte 3 et que ça devrait aller. Enfin, j'imagine, on verra. Je pense que ça devrait aller.
Bon, et puis tu as fait le tour des Flandres la semaine dernière, donc au bout du compte, si tu étais comment la semaine dernière sur le tour des Flandres que tu as fait en 6 heures?
Déjà, nouveau, c'est pas un objectif ou autre, c'est pas du tout un rythme course, donc c'est dur de prendre ça en référence. Mais j'ai pas fini cramé, c'est un peu particulier parce qu'il y a du monde, donc ça bouge un peu dans les monts pavés, tout ça. Donc, j'ai vraiment vu ça comme les monts pavés, tu pousses dedans et entre, c'est des liaisons et c'est un peu au gré des groupes. Et finalement, il n'y a pas beaucoup de groupes qui se forment, et tant mieux. Mais donc, j'étais bien, j'ai fini bien et j'étais content de finir parce qu'au final, il faisait quand même pas radieux et que ça commençait à bien cailler. Donc, a priori, quand je finis le tour des Flandres comme ça, je me dis, voilà, on peut allonger l'encre un petit peu, ça ira. On verra après le tennis, peut-être que je me dirais, ah tiens, là, plus de 200 gravel, peut-être que ça manque un peu de fond, mais voilà.
Tu pars sur quel vélo demain? Parce que le parcours est annoncé évidemment avec des monts pavés, bien entendu, mais la semaine dernière, Alex et Clem ont fini la reco et ont enlevé de longs secteurs absolument impraticables. Toi, tu pars sur quel vélo? En considérant à la fois le roulant, les monts pavés et les sections un petit peu techniques, les terrils. Et sachant que vous partez vent arrière, que vous allez avoir une longue portion, non, vous partez vent de face, puis vent arrière, et vous finissez vent de côté.
Bah, tout ce qui est argument vent ou autre, ça changera rien pour moi. Là, je pars avec le vélo, bah, le vélo que j'ai du coup. En soi, dans ma pratique, je justifie deux gravels, donc un route et deux gravels. Parce que justement, mon gravel est devenu, quand j'avais mon Orbea Terra, c'était un gravel un peu trop all-road, pour pas dire c'est complètement all-road, par rapport au standard actuel du gravel. Et là, du coup, j'étais parti. Donc, je roule sur des Chiroux. J'ai un Chiroux Vagus, mais que j'ai monté plutôt en mode gros gravel. Donc, il y a des fois où j'ai envie de faire du gravel plus roulant ou simplement, j'ai pas envie de sortir mon pure route pour l'instant parce que les routes sont dégueu et que je prends quand même des routes de merde. Ou plutôt parce que ça m'amuse de prendre des routes. Donc j'ai un gravel roulant et j'ai mon gros gravel le Vagus. Et là, bah, du coup, en montage, vu comment la course se présente, ils ont l'air d'insister sur le fait que c'est un peu cassant quand même. Et mon montage de mon gravel plutôt all-road est en slick pour l'instant, donc ça sera le Vagus, donc plutôt gros gravel en pneu de 45. Et voilà, je pense que ça marchera très bien. Et puis c'est l'occasion de rouler avec ce vélo-là et de confirmer certains changements que j'ai faits, et ainsi de suite dessus.
Ça veut dire quand tu dis c'est un all road comparé au standard du gravel actuel, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que mon Orbea Terra, j'ai fait ma première course, donc la veille qui mène dessus, en pneu de 32. Et que c'était en 32 GP5000, et c'était un très bon vélo de route. Donc la position, on est bien dessus, ça roule bien. Par contre, une fois que tu es dans le cassant, bah, 40 mm max, tu sens que la position, bah, t'es quand même bien en avant. Et en vrai, c'est super chouette parce que du coup, c'est hyper cassant et c'est un peu technique, tout est un peu technique, donc c'est assez fun. Mais c'est clair qu'en d'un point de vue reposant, c'est pas vraiment le vélo le plus reposant. Donc ouais, c'est quasi la définition d'un vrai road maintenant. C'est le vélo parfait pour sentier, roulant, ou même de la route dans une certaine mesure. Ou à l'inverse, que mon Vagus, justement, si tu veux vraiment faire de la route, c'est moins le vélo adapté à ça.
Christophe, est-ce que tu vois quelque chose à ajouter que j'aurais oublié et ou quelque chose qui te tient particulièrement à cœur avant d'attaquer ta minute de solitude?
Qui me tient particulièrement à cœur. Là, comme ça, tout de suite, non. Non. Il y a un point,
Eh bien.
c'est plus pour moi, et je pense que tu en avais déjà parlé quelque part, je trouve qu'il y a beaucoup de courses et que ça devient compliqué à choisir ses courses. Et c'est vrai que du coup, course route et autres, je perds un peu de l'intérêt pour ça parce que je trouve qu'il n'y en a plus tellement facilement à trouver. Et c'est vrai qu'il y a des endroits où j'ai envie de rouler, des courses qui ne se font pas à ces endroits-là. Et du coup, quand tu parlais tu as fait une vidéo là-dessus, je pense, sur comment trouver ces courses et autres. C'est possible ou je me trompe?
J'avais fait un truc sur les calendriers et sur comment trouver les courses, donc en mettant le calendrier DotWatcher, en mettant deux trois idées de calendrier et je te rejoins. Bon, c'est pas une surprise, mais je te rejoins totalement sur le fait que les épreuves routes sont pas forcément super intéressantes et ce qui est vraiment excitant, c'est d'aller rouler off-road et d'aller dans des endroits où on n'irait jamais si on n'avait pas le prétexte d'une épreuve et que jamais on mettrait les pieds.
Ouais, après l'épreuve doit pas être le moteur pour y aller, mais c'est vrai que ça attire l'œil sur certains endroits. Bah, avec le Kyrgyz, c'est clair qu'en fait j'aurais jamais été. Alors qu'en fait, Kyrgyz pour la randonnée, c'est un place to be aussi. Hein. Tu vas du côté de Karakol, des randonneurs, il y en a partout. Mais c'est vrai que du coup, ces calendriers attirent l'œil sous certains endroits. Je pense que le Maroc n'était pas dans ma checklist de base. Alors que pareil, pour les randonneurs, l'Atlas, c'est place to be aussi. Mais du coup, par rapport quand je parlais au niveau des courses routes, c'est clair que pour l'instant, je sens un peu une perte de vitesse au niveau de mon intérêt, c'est peut-être pas tout le monde. Ouais, il y a des réseaux type Bikeman, tout ça, mais là, pareil, ça m'intéresse pas du tout. Mais déjà, je pense que je suis intéressé plus par l'off-road parce que c'est mon background de base. Mais quand je cherche vraiment, parce que j'avais envie quand même d'un peu me défoncer sur une course route, je suis un peu déçu de ce qui est proposé et je trouve pas le moteur qui me motive à aller sur telle épreuve ou telle épreuve. Parce que je trouve que voilà, ça se renouvelle pas. Il y a quelques grosses épreuves. Ouais, bon, il y a TCR évidemment, mais ça m'intéresse pas spécialement non plus. Je dis pas jamais, mais c'est un. Voilà, des longs bouts de route nationale, c'est pas pour moi. Mais du coup, je trouve ça dommage. Ça me chaufferait bien de voir un peu plus de belles courses en montagne. Il y a des terrains de jeu un peu partout, rien que la France, les Vosges, l'Auvergne, les Pyrénées ou autres. Il y a moyen de faire des trucs de fou. Après, il faut les organisateurs pour ça, donc c'est facile à dire, mais ça me déçoit un peu de pas pouvoir me dire, tiens, telle période, il y a ça, je peux y aller et je vais kiffer de la montagne à fond.
Ben ouais, parce que finalement, les trucs
Donc voilà,
vraiment
je sais pas si tu
majeurs,
avais.
ben, tu les as faits. Transpyrénées et tout Volcano, bon, ben, c'est plié, tu vas pas y retourner.
Non, c'est pas l'idée de refaire une course qui a été faite, justement par rapport à ce que je disais, pas retourner normalement deux fois au même endroit. Ça, c'est mon discours de base. Après, le Kirghiz, c'est pas impossible que si la trace change et qu'on part d'un autre endroit, c'est pas impossible que j'y retourne un jour. Après, il y a tellement de courses et il y a tellement de trucs ou d'endroits à voir que je pense que c'est pas une priorité non plus. Mais du coup, et en route, en dehors des deux que tu viens de dire là, c'est celle qui tombe souvent. Il y en a d'autres, hein. Il y en a clairement d'autres, mais de là à dire que c'est un truc un peu majeur et que tu as envie d'y aller, de nouveau hors TCR, bof, il n'y a pas trop d'intérêt pour l'instant. Alors qu'en off-road, ça pousse de partout, partout, partout. En off-road, c'est un côté frustrant, mais là, il y a plein de choses que j'ai envie de faire. Et plein de choses qui tombent à la même période, la nouvelle de Nelson, la Tour Divide, tout ça, bah, tu peux pas toutes les foutre en une année. Donc je sais que si je reste un peu dans ce petit domaine, bah, j'en ai encore pour quelques années pour faire pas mal de choses. Donc rien que sur mai-juin, Transbalkan, j'ai envie de la faire aussi. Donc là, on parle déjà de 3 ans avec des courses en mai-juin qui ont l'air juste canon, vraiment, vraiment.
Ouais, la Transbalkane, la Transarménia aussi, a l'air
Et celle-là
vraiment
est
cool.
nouvelle ou...
Ouais, elle est nouvelle, ouais, ça va être la première année,
Ok.
je crois, en juin. Alors, c'est peut-être le nom, c'est
Ouais,
peut-être
juin,
pas la
nouveau, ok.
Transarménia ou un truc comme ça, mais en tout cas, ça se passe en Arménie, ça doit être un 1200 en Arménie. Et c'est vrai que
Ok.
c'est des zones où on
Très
n'irait
joli.
pas, tu vois. L'idée de se dire, tiens, je vais en vacances au Kirghizistan ou je vais en vacances en Arménie. Waouh! Mais par contre, comme tu le fais toi avec Marjorie, cumuler un séjour sur place et une course à vélo, c'est quand même cool parce que c'est pas des endroits où on va aller tous les jours.
Ouais, c'est vraiment
C'est
sa
ça
réflexion,
reste
c'est
des
de se dire taper là-bas juste pour une course, c'est un peu triste quand même, hein. C'est pas. Bon, après, chacun fait avec son emploi du temps et autres, hein, évidemment, mais le Kirghiz, ok, c'est pas j'y retournerai jamais de ma vie et c'est pas impossible, mais de fait, c'est pas. Tu planifies pas ça comme aller en Italie, comme aller en Espagne ou autre et. Et c'est un peu triste de voir que le spectre vélo dans ce genre de pays. Le Maroc, ben, j'ai cumulé une semaine avant. Bon, évidemment, le Maroc, c'est pas la même chose à mettre en place. Ben, je suis content d'avoir profité de l'endroit aussi différemment que par le spectre de. Je suis sur un vélo, je m'arrache la gueule jour et nuit. Et puis voilà, je suis à l'arrivée, je suis dans un hôtel parce que les fins de course passent dans des gros hôtels, par exemple. Ben, je parle pour le Maroc. Et que finalement, tu es très déconnecté Du reste, une arrivée à Agadir, c'est pas la même chose que d'aller marcher ou d'aller faire du touring du côté de l'Atlas. Donc voilà. Donc oui, côté voyage, côté course, c'est cool, mais le côté voyage est d'autant plus intéressant. Donc les deux, c'est un vrai plus ou une vraie nécessité pour pas voir que ça au travers de ce que l'organisateur a bien décidé de te mettre sur une trace.
Je vais t'abandonner pour ta minute de solitude. Je te retrouve juste après.
Ben je savais qu'elle allait venir. C'est pas pour autant que j'y ai réfléchi. Je me fais le tour de la tête 2 secondes. J'ai pas grand-chose à ajouter là-dessus, mais clairement, j'ai revu hier soir. J'étais à un événement de gravel local, près de chez moi. Et il y a toujours cette discussion de c'est cool les courses que tu fais, j'essaierai bien tout ça, mais j'ai pas le matos, ou est-ce que je dois acheter ça, ou ça, ou ça. Et c'est des trucs un peu déjà entendus plein de fois, hein, mais c'est clair que faire du bikepacking, ça implique pas toujours d'être suréquipé ou autre. Ça facilite grandement ce qu'on fait, évidemment, quand on a des bons équipements, une bonne veste ou autre. C'est plus agréable et ça traumatise moins si les conditions sont vraiment compliquées. Mais le fait d'essayer déjà avec ce qu'on a et de manière un peu facile au début, donc par exemple, ok, je vais faire un bikepacking par là, mais il y a toujours un train pas loin au cas où, si ça se passe pas bien et s'assurer un peu, juste go et c'est parti pour essayer un truc qui est quand même un peu différent parce que rouler, justement, la transition que j'expliquais entre faire du marathon comme je faisais avant et faire du vélo type bikepacking maintenant. En fait, le truc qui est fou, c'est pas rouler à vélo. Rouler à vélo, c'est super, mais une fois que tu es sur ton vélo et que tu sais que après ta boucle, qui n'est pas une boucle du coup, mais tu as tes sacoches et que tu sais pas où tu vas dormir, en fait, c'est un feeling de fou. C'est bien mieux que de rouler à vélo et. C'est pour ça que l'itinérance, c'est tout aussi bien à pied ou en course à pied. Moi, je fais pas du trail en autonomie, mais c'est la même idée. Je pourrais m'y retrouver. C'est vraiment le fait de se dire, je fais mon matos, je suis assez serein, peu importe ce qui arrive. Par exemple, je suis en montagne, je sais pas moi. Commence à être tard, il fait noir, c'est pas grave. Je sors mes doudounes, je sors mon sac de couchage et. Je me couche là et c'est trop bien en fait, parce que je suis serein, parce que j'ai tout ce qu'il faut. Et en fait, je suis parti là ce matin et je savais pas où j'allais finir et au final, je suis ici et c'est juste trop bien. Donc, il y a vraiment ce côté à essayer, je trouve, par rapport à la longue distance, c'est cool, le vélo, c'est cool, mais ce qui est cool, c'est juste, tu pars, tu sais pas ce que tu fais et on verra ce soir et c'est un feeling complètement différent. Donc voilà, je pousserai un peu tout le monde à juste essayer ça, on bouge, on a itinérance et peu importe le moyen, on profite de ce qui est donné le soir même. Il pleut, très bien, je trouve un pseudo-abri, une petite cabane là et c'est parti de l'aventure, c'est super chouette. Et je vois bien que les gens qui essayent dans mon entourage, en fait, ils recommencent parce que c'est juste chouette. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ma petite minute de solitude. Merci tout le monde d'avoir écouté et on se voit sûrement sur un événement ou. Donc, pareil, voilà.